Alors bonjour, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Donc je m'appelle Ado et je suis voilà, reconnaissant et privilégié de partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Et puis la dernière fois que j'étais là, pour ceux qui étaient là, nous avions parlé du fait que le peuple d'Israël, les Israélites, avaient demandé un roi à Samuel, donc à Dieu. Par le prophète Samuel. Et nous avions dit que ce n'était pas le fait qu'ils aient demandé un roi qui posait problème, mais c'est la raison sous-jacente pour laquelle ils avaient demandé le roi. Et dans ce chapitre 8 du premier livre de Samuel, on voit clairement que Dieu lui-même avait dit que c'est lui que le peuple rejetait. Mais il ne va pas refuser de leur accorder le désir de leur cœur. Dieu va donner un roi à son peuple. Deux chapitres plus loin, on voit que Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, est désigné par Dieu pour devenir le tout premier roi d'Israël. Et il est oint par le prophète Samuel et désigné devant toute l'assemblée d'Israël comme roi. Et lorsqu'on parcourt ces chapitres, on voit que Saül commence très bien. Et il gagne des batailles. Mais pour l'aider à réussir sa mission, Dieu va lui donner ce que je pourrais appeler aujourd'hui un cahier de charges. C'est le droit relatif à la royauté. Et un des points clés de ce cahier de charges que nous trouvons déjà dans le Deutéronome au chapitre 17 est le suivant. Le roi devait écrire un double du livre de la loi et ce livre devait rester avec lui. Et en fait, il devait lire ce livre-là, donc ce double de la loi, il devait le lire tous les jours de sa vie. Afin d'apprendre à craindre l'Éternel, à prendre garde à toutes les paroles de la loi et à ses statuts pour les pratiquer. Et pourquoi il devait faire ça? De peur que son cœur ne s'élève au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ce commandement à droite ou à gauche, et afin qu'il prolonge ses jours dans son règne, lui et ses fils au milieu d'Israël. Et en fait, en lisant ça, on se rend compte que la durée du règne du roi allait dépendre de sa mise en pratique ou pas de la loi de l'Éternel. Est-ce que Saül va savoir tenir compte de cette importante prescription? Notre texte de ce jour va nous donner la réponse et je vous invite à lire 1 Samuel au chapitre 15. Samuel 15, je lis. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites. Vouez à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et le passa en revue à Telaïm. Il y avait 200 000 fantassins ainsi que 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Partez, retirez-vous, quittez les Amalécites afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. » Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Saül porta des coups à Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple et le passa au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, « Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. » Puis il est reparti et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. » Samuel dit à Saül, « Arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël ? L'Éternel t'avait envoyé en disant, « Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. » Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au théraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau, qui fut arraché. Samuel lui dit, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Verset 30, Saül répéta, « J'ai péché, maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. » Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Samuel revint à la suite de Saül et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, le roi d'Amalek. Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il se disait, certainement l'amertume de la mort s'est écartée. Et Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, de même ta mère sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül remonta chez lui à Gibea de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Une longue lecture, c'est vrai. Et j'aimerais, en fait, avant de continuer, faire une petite parenthèse sur ce qui concerne la mort des enfants. Ça peut nous choquer. Quand nous lisons la parole et que nous voyons des passages comme ça où on voit vraiment que des enfants sont morts ou des enfants vont mourir. Et en fait, j'aimerais tout simplement dire que Dieu inflige à Amalek ce que celui-ci aurait infligé à Israël s'il avait eu l'occasion. Dieu est souverain. Dieu décide, dans l'histoire de Noé, par exemple, de tout détruire. Et il sauve Noé et sa famille. Et dans l'histoire de Jonas, Dieu décide de sauver Ninive. Et il a même compassion des animaux, des Ninivites. Dieu est bon et Dieu n'a rien contre les enfants. Au contraire, Dieu aime les enfants et tout le fil rouge de la Bible, on peut voir combien Dieu insiste sur le fait d'enseigner sa parole aux enfants. Et Jésus nous a montré un exemple parfait de dire, mais laissez-les venir à moi. Et dans les lettres des apôtres, on voit que des apôtres comme Paul, quand ils écrivent, ils s'adressent même aux enfants dans les églises, ce qui était chose incroyable à l'époque, on ne s'adressait pas aux enfants. Juste cette petite parenthèse pour dire que Dieu est bon et le fait que des enfants meurent ne change pas l'identité de Dieu et qu'il aime vraiment les enfants. Dans ce texte que nous venons de lire, j'ai relevé trois choses apparentes. Premièrement, une mission, ensuite une désobéissance et enfin un rejet. Et c'est pourquoi j'ai proposé comme titre « Obéir à moitié à Dieu ». En fait, c'est lui désobéir. Premièrement, la mission. Dieu, par l'intermédiaire de Samuel, confie une mission à Saül, qui pourrait se résumer comme suit. Va détruire les Amalécites avec tout ce qu'ils possèdent. Et cela pourrait nous choquer de lire que Dieu envoie anéantir tout un peuple. Mais s'il agit ainsi, c'est parce que les Amalécites s'étaient attaqués à ce que Dieu considérait comme son fils premier-né. Et dans le livre d'Exode, chapitre 17, on voit que Moïse avait même déclaré que les Amalécites se sont pris au trône de l'Éternel, en parlant d'Israël. Ils se sont pris au trône de l'Éternel. Et dans le livre d'Exode, on voit combien ce combat... Lorsque Israël était sorti d'Égypte et qu'ils ont rencontré et que les Amalécites sont venus vers eux pour les combattre, on voit dans Exode 17 combien ce combat a été violent parce qu'ils voulaient complètement les anéantir. Il a fallu que Hur et Aaron se tiennent de part et d'autre de Moïse. Et le texte nous dit que lorsque Moïse avait les mains levées, Israël avait l'avantage et lorsqu'il les baissait, Amalek prenait le dessus. Et il a fallu que Hur et Aaron soutiennent les mains de Moïse jusqu'au soir. Pour que Israël puisse être vainqueur de ce combat. Et Dieu avait alors dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Dieu avait promis qu'il allait faire ça. Et puis le temps était passé. Josué et tous ceux qui étaient là, toute cette génération qui avait participé à cette grande bataille là-bas, ils sont tous morts, sans voir l'accomplissement de cette promesse. Environ 400 ans après, 400 années après, Dieu donne au premier roi d'Israël ce que je pourrais appeler la mission d'accomplir sa parole. Et qu'est-ce que Saül fait tout de suite? Il est enthousiaste. Il convoque le peuple, des centaines de milliers de soldats israélites se rassemblent. Saül et ses hommes marchent jusqu'à la ville d'Amalek et ils placent une embuscade dans la ville, dans la vallée. Le verset 7 nous dit qu'ils ont porté des coups à Amalek depuis Avila jusqu'à Chour. Et en fait, il est assez difficile de connaître la distance précise entre ces deux territoires parce que même les experts n'arrivent pas à situer sur le plan géographique la région d'Avila. Mais il y aurait probablement une certaine proximité entre les deux localités. Mais on voit que Saül voue à la destruction les Amalécites. Mais est-ce qu'il les a vraiment tous exterminés? Le texte nous dit qu'il a capturé vivant Agag, le roi d'Amalek. Mais pourquoi se réserve-t-il le roi? Parce qu'il veut se le présenter à tout Israël. Lors de son retour triomphal en Israël, il veut montrer le prisonnier de guerre. C'est le roi d'Amalek que j'ai capturé comme prisonnier. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'attirer les honneurs. Saül veut s'attirer les honneurs. Mais ce n'était pas la seule chose qu'il avait épargnée. Et cette désobéissance, en gardant le roi d'Amalek vivant, nous allons voir aussi qu'il a aussi désobéi à un autre ordre de Dieu que Samuel lui avait donné. Et en fait, c'est pourquoi je me suis dit, on va parler aussi de la désobéissance. Premièrement, la mission qui n'a pas été accomplie comme il se devait. Et donc, du coup, pourquoi? Parce qu'il y a eu une désobéissance. Et en fait, dans la pensée biblique, la désobéissance, c'est le refus d'écouter Dieu, le refus de faire ce qu'il nous demande. C'est en fait s'opposer à lui, c'est lui tenir tête. Et Dieu avait donné la loi à son peuple afin qu'il sache lui obéir. Voici ce que j'attends de vous, voici ce que vous devez faire. Et le roi, en tant que représentant de Dieu vis-à-vis du peuple, devait avant tout donner l'exemple. Et c'est pourquoi il devait avoir une copie de la loi sur lui et la lire chaque jour. Le non-respect de la parole de Dieu était une faute grave qui méritait la punition. Et déjà au chapitre 13, nous pouvons voir que, donc dans 1 Samuel 13, on ne va pas le lire, mais si vous le relisez, vous pourriez voir que Saül ne marchait déjà pas droit devant l'Éternel. On voit dans ce chapitre qu'une armée innombrable de Philistins s'était rassemblée pour attaquer Israël. Et Saül n'avait pas eu assez de foi pour attendre jusqu'à l'arrivée de Samuel et il avait offert lui-même les sacrifices et les holocaustes. Et Samuel, en découvrant cela à son arrivée, lui avait alors dit « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement de l'Éternel ton Dieu que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. » C'était déjà là une première désobéissance de Saül qui régnait, je pense, à peu près 2 ans en Israël. Et dans ce chapitre 15, Saül décide de rebeloter, de faire les choses à sa manière. Verset 9, Saül et le peuple épargnèrent Agar ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. Nous voyons clairement que c'est de façon délibérée que le roi et son armée ont décidé de garder les meilleures parts du butin. L'argument selon lequel la meilleure partie du bétail a été épargnée pour servir de sacrifice à l'Éternel n'était qu'un prétexte. Et pourquoi? Parce que même dans le cas de certains sacrifices, des portions revenaient, de grandes portions revenaient à celui qui offrait le sacrifice. Donc, même s'ils offraient les animaux en sacrifice à Dieu, il y aurait certainement cette intention de récupérer quand même des parties, hein, des portions de viande. Mais Saül va encore commettre un autre forfait. Nous le trouvons au verset 12. On vient dire à Samuel, Saül s'est rendu à Carmel et il s'y est érigé un monument. Le mot hébreu qui a été traduit par monument, en fait, c'est une main. Hein? C'est une main. Et en fait, Saül il s'est érigé un monument en forme de main. Et pourquoi? À cause de son orgueil. Et sur cette main, il pouvait graver les différentes victoires qu'il a eues au travers des batailles depuis son règne. Et c'est comme une main qui était là et qui montrait le roi, qui représentait le roi et ses victoires. Mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Si ce n'était que pour montrer qu'il était un grand roi. Un roi qui commençait à faire fureur. Un roi qui commençait à terroriser les autres nations. Un roi qui tout simplement commençait à vouloir s'attirer les honneurs du peuple. Et tout cela ne faisait que confirmer l'éloignement grandissant de Saül vis-à-vis de Dieu. Le cœur du roi s'était élevé et il cherchait sa propre gloire. Au verset 30, il demande à Samuel de l'honorer. Nous allons y revenir. Tout cela nous montre que Saül n'était plus digne vraiment de représenter Dieu vis-à-vis du peuple. À la suite de sa désobéissance, de son rejet de la parole de Dieu, Dieu aussi va alors le rejeter. une mission, une désobéissance et puis un rejet. Troisièmement, le rejet. Et c'est encore à Samuel, celui-là même par qui Saül avait été oint, que Dieu se révèle à nouveau, verset 11. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Du coup, on pourrait se demander si Dieu peut vraiment avoir des regrets. D'autant plus qu'au verset 29, Samuel dit ceci à son sujet. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et ne prouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. Mais le chapitre se termine au verset 35 par ceci. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi comme roi d'Israël. Là, il faut également noter que dans plusieurs textes bibliques, on voit que Dieu s'est repenti ou que Dieu a changé d'avis ou que Dieu a regretté. Genèse 6, Jérémie 18, dans le livre de Joël. On voit ces passages-là, ces phrases-là. Et du coup, on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a une contradiction apparente. Dieu peut-il vraiment regretter, oui ou non? Il faut dire que lorsque la Bible parle de la repentance de Dieu ou des regrets de Dieu, il s'agit de ce qu'on appelle un anthropomorphisme. L'Écriture attribue à Dieu, et souvent c'est Dieu lui-même qui s'attribue, des caractéristiques humaines, afin de nous permettre de le comprendre. L'Écriture parle de la main de Dieu, des oreilles de Dieu, du cœur de Dieu, des yeux de Dieu. Elle parle de Dieu qui s'est reposé, même si elle dit aussi qu'il ne peut pas être fatigué. Elle attribue des émotions à Dieu. Elle nous parle de sa colère et sa tristesse face au péché de son peuple, mais aussi de sa joie, sa compassion et bien d'autres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Tout simplement que Dieu est immuable. Ça, c'est une vérité que la Bible enseigne. C'est une caractéristique de Dieu. C'est un attribut de lui. Il est immuable. Ses attributs, ses desseins, ses motivations, ses promesses ne peuvent pas changer. Cependant, il est un Dieu qui adapte ses rapports vis-à-vis des hommes. Et c'est ce qui allait se passer avec Saül. Dieu l'avait choisi. Et Dieu n'allait pas l'abandonner s'il s'était tenu conformément aux principes de Dieu. Mais puisqu'il désobéit, Dieu le rejette. Parce qu'il s'est détourné de lui. Samuel va devoir être courageux pour annoncer les paroles de Dieu au roi, même si ce ne sont pas des nouvelles réjouissantes. Et il va le faire avec brio. Mais dès que Saül le voit, il va jouer au parfait innocent. Verset 13. Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. Point barre. En d'autres termes, j'ai fait ce que l'Éternel m'a demandé. Et Samuel, avec sagesse, répond au verset 14. Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? En d'autres termes, si tu avais vraiment accompli la parole de l'Éternel, on n'entendrait pas ces brebis et ces bœufs. Et Saül se rend compte que Samuel est au courant de la situation. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un coupable. Verset 15. Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. En d'autres termes, s'il y a quelqu'un à blâmer, ce n'est pas moi, c'est le peuple. Et en fait, l'homme a toujours cherché un coupable. Quelqu'un qu'il faudrait punir à sa place. Et ça ne commence pas depuis Saül, ça commence depuis le jardin d'Éden. Adam qui se tourne vers sa femme, mais c'est elle, et elle qui se trouve vers le serpent, mais c'est lui. Mais Dieu a répondu à ce besoin de l'homme de trouver un coupable. un coupable, bien que innocent, et c'est la personne de Jésus. Il vient comme, il vient totalement innocent et il se propose, tuez-moi, sacrifiez-moi à leur place. Je prends leur punition. C'est ce que Dieu a accompli pour nous. C'est tellement grand, c'est tellement merveilleux, c'est une compassion tellement grande, inestimable. Nous n'aurions jamais été capables de trouver le parfait agneau qu'il faudrait sacrifier à notre place. Mais Dieu l'a trouvé. Et Jésus a accompli cela pour nous à la croix. Et ce que Saül oublie, c'est que même si le fautif c'était vraiment le peuple, il était de son devoir à lui en tant que roi de rappeler les paroles de l'Éternel au peuple, chose qu'il n'a pas faite. Et on constate dans ce verset 15 que Dieu n'est plus le Dieu de Saül, mais celui de Samuel. C'est lui-même qui le dit, à l'Éternel ton Dieu, il s'approprie plus l'Éternel comme son Dieu, mais le considère juste comme le Dieu de Samuel. Et nous pouvons voir la vérité au verset 19, où nous voyons que Saül s'est tout simplement jeté sur le butin, sachant que Dieu désapprouvait son acte. Mais il va encore jouer ce que j'ai appelé son va-tout dans les versets 20 à 21. J'ai écouté l'Éternel, j'ai ramené Agag et j'ai voué les Amalécites à la destruction, mais le peuple a pris sur le butin les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, etc. En d'autres termes, j'ai écouté Dieu, même si je n'ai pas tout fait comme il le voulait. Et on revient à notre titre. On ne peut pas obéir à moitié à Dieu. Dieu attend de nous une obéissance totale. Samuel allait maintenant briser l'orgueil de Saül, l'orgueil qui le poussait à se justifier, à chercher des coupables au lieu de reconnaître sa faute. Et combien de fois nous avons eu une attitude similaire à celle de Saül ? Verset 22, Samuel lui dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Samuel ne rejette pas la sacrificature. Il ne dit pas que les sacrifices, de ne plus faire tout le système sacrificiel qui était mis en place, non. Mais il dit que l'Éternel a plus de plaisir dans l'obéissance à sa voix que ces sacrifices des animaux qui lui sont offerts. Quand nous méditons la parole, et surtout quand nous la mettons en pratique, voilà ce qui fait le plus plaisir à Dieu. Vous conviendrez avec moi que le plus difficile, c'est la mise en pratique. Nous savons déjà tellement de choses de la Bible. Presque chaque jour, nous lisons notre Bible. Nous écoutons des prédications. Nous faisons des études bibliques. Nous connaissons tellement de choses sur Dieu. Peut-être que vous avez appris ou étudié tous les noms de Dieu qui sont dans la Bible. Peut-être que vous connaissez tous ses attributs et leurs significations. Peut-être que vous avez parcouru le fil rouge de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la grande histoire du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile pour nous? Eh bien, c'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique. Nous la connaissons, la parole. Nous la lisons, nous l'écoutons. C'est déjà une bonne chose. Mais la meilleure, ce qui doit suivre, c'est la mise en pratique. Nous avons de la peine à pardonner et à aimer ceux qui nous ont critiqués une fois. Notre vieil homme ne nous lâche pas et nous avons cette lutte intérieure. Mais nous devons nous rappeler que même le diable connaît l'Écriture. Il la connaît, mais qu'est-ce qu'il ne fait pas? Quand il vient tenter Jésus dans le désert, il cite l'Écriture. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne la met pas en pratique. J'avais besoin à un moment donné de mettre la parole de Dieu en pratique dans un aspect de ma vie, et c'est quand je jouais au foot. J'aime beaucoup le foot, mais quand je joue au foot, sur le terrain, peut-être que je deviens une autre personne. Mais moi je ne le réalisais pas. Et en 2019, j'étais allé avec des copains pour jouer au foot. Et en fait, puisqu'on était à l'Institut biblique de Genève, donc avec les autres étudiants, et puis on est allé faire du sport au cours de la semaine, je ne sais plus c'était quel jour. Et en fait, il y a un des étudiants qui était là, qui me voyait jouer. Il s'est demandé, mais c'est vraiment ado là que je vois? Parce que je contestais les fautes, je faisais tomber les gens et je ne voulais même pas m'arrêter pour accepter que c'est une faute. On me faisait des reproches. Et si tu as mal joué, tu as fait une faute, je disais non. Tout ce que je voulais, c'était gagner. Je ne jouais pas avec amour. C'était une bataille pour moi sur le terrain. Et cet étudiant qui était là, cet ami-là qui était là, qui voyait comment je réagissais, comment je me comportais, il disait, mais furie. Et après, il a juste échangé quelques mots avec moi, et ça m'a fait tilt. Et depuis ce jour, je joue au foot d'une façon différente. Je ne joue plus seulement pour gagner, bien sûr, j'aime bien quand je gagne. Mais je joue avec amour. J'apprends à m'excuser. J'apprends à donner le ballon à l'autre quand je pense que j'ai fait une faute. Et des fois, ce sont même eux qui me disent, non, mais là, ce n'est pas une faute, ado, tu exagères. J'apprends à faire attention. Parce que je me dis, il faut que je mette en pratique la parole de Dieu dans mon foot, dans mon moment de sport. Saül s'était tout simplement révolté. Il avait résisté à Dieu en rejetant sa parole et cela était aussi grave que la divination. Mais dès qu'il entend que l'Éternel le rejette comme roi, c'est là qu'il Il comprend que sa couronne est menacée, alors c'est là qu'il commence à reconnaître son péché. Verset 24, « Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles, j'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. » Mais était-ce vraiment une vraie repentance ou juste un moyen d'essayer de sauver sa couronne? Le verset 30 nous montre que le peu de sincérité qu'il y avait dans cette repentance de Saül. Verset 30. J'ai péché. Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Ce qu'il voulait, c'était, il voulait être honoré. C'est fou quand même. Tout ce qu'il voulait, c'était être honoré. Il voyait qu'il était en train de perdre la face devant le peuple, devant les militaires, devant les soldats qui étaient là. Et dit à Samuel, honore-moi devant le peuple, devant les anciens, honore-moi. Et alors je vais adorer aussi l'Éternel. Il conditionne même son adoration à l'Éternel. Et on comprend mieux pourquoi il avait érigé un monument à Carmel. Mais l'Éternel ne va pas revenir sur sa décision. Verset 26, tu ne seras plus roi sur Israël. Verset 28, l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre meilleur que toi. Et puis le verset 35, on voit clairement, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Jusqu'au jour de la mort de Saül, bien sûr. Et Samuel pleurait sa mort. Et du coup, on peut voir combien Samuel aimait quand même Saül. Il n'avait rien contre lui. Mais il était désolé de voir qu'il n'a pas mis en pratique la parole de Dieu. J'aimerais conclure pour dire que Saül est tombé à cause de sa non-mise en pratique de la parole de Dieu. Dieu lui retire la royauté, mais Saül n'a pas immédiatement été destitué. Il va encore régner, il va encore être là devant les hommes à faire le roi et tout. Mais qu'est-ce qu'il n'avait plus?
L'onction.
Dieu était parti, exactement. Dieu était parti. Et Dieu préparait déjà le successeur de Saül. Et le rejet de Saül nous fait prendre conscience de l'immense grâce que nous avons en Christ. Parce qu'en lui, Dieu ne nous rejette pas. Il est impossible d'être parfait. C'est parce que nous avons Christ que nous vivrons l'éternité avec Dieu. C'est parce que nous avons Christ que nos péchés nous sont pardonnés. Et en lui, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à mettre en pratique sa parole, jour après jour. Parce qu'autrement, personne ne pourrait y arriver, personne. Et ça, nous devons être reconnaissants devant Dieu pour cet amour manifesté en Jésus-Christ, pour cette grâce manifestée en Jésus-Christ, parce que nous vivrons l'éternité avec lui, parce que quelque chose s'est passé à la croix. Quelques deux, trois applications. Premièrement, j'aimerais nous encourager, nous inviter à être encouragés, premièrement par le fait que Dieu n'oublie pas, il n'oublie pas, il ne peut pas oublier, sauf s'il décide lui-même d'oublier quelque chose, comme nos péchés, qu'il peut décider d'oublier. Mais autrement, il ne peut pas oublier. Il n'oublie pas ses promesses, il n'oublie pas sa parole. Regardez, 400 ans qu'il avait promis de détruire Amalek. Et tous ceux qui étaient présents à ce moment-là sont morts. Et 400 ans après environ, Dieu se dit, je vais accomplir ma promesse. Et du coup, il y a 2000 ans, on a eu la promesse que Christ va revenir. Et souvent, on se dit, mais waouh, est-ce que Dieu n'a pas oublié? Mais non. Dieu n'a pas oublié. Il le fera. Il tient toujours sa promesse. Et ça, c'est un encouragement pour nous. Et peut-être qu'il vous a aussi promis quelque chose. Il nous a promis tellement de choses dans sa parole. Et nous pouvons nous attacher à ça parce que Dieu n'oublie pas ses promesses. Nous pouvons aussi être encouragés par le fait que Dieu ne peut pas se repentir dans le sens humain du terme. Il ne change pas. Il est un rocher en qui nous pouvons avoir confiance. Mais enfin, nous devons nous rappeler quand même de la nécessité de mettre en pratique la parole de Dieu. Comme nous le dit l'apôtre Jacques dans Jacques chapitre 1, verset 22, « Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et du coup, une question pour terminer. Est-ce qu'il y a un aspect de notre vie où nous savons que nous avons besoin de mettre en pratique la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a un aspect dans notre vie où nous voyons que là, j'ai besoin de pratiquer la parole de Dieu un peu plus? Et nous pouvons remettre cela au Seigneur, chacun de nous, individuellement. Lui parler dans notre cœur, lui parler dans notre chambre, lui montrer notre faiblesse et dire, là Seigneur, j'ai besoin de mettre en pratique ta parole. Et je suis sûr et convaincu que si nous lui demandons, il le fera pour nous. Comme il m'a aidé au foot. Et bien sûr, d'autres aspects de la vie. Je suis convaincu qu'il le fera aussi pour chacun de nous. Je vais encore prier. Oui, Dieu Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Tu es le Dieu qui n'oublie pas. Tu es le Dieu qui tient ses promesses. Tu es le Dieu qui se plaît aussi lorsqu'il voit ses enfants mettre en pratique ta parole. Seigneur, combien c'est difficile. Je te prie pour moi et pour chacun de nous ce matin. Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous de nous souvenir, Seigneur, de ce qui fait ta joie quand tu nous regardes. Père Céleste, merci que tu nous as aussi donné ton esprit qui nous garde et qui nous fortifie jour après jour. Merci parce que si nous tombons, tu nous relèves. Merci parce que tu nous gardes pour l'éternité. Seigneur, quelle grâce inestimable. Oui, merci pour la croix. Merci pour Jésus. Merci pour le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché. Merci pour ce que tu es fidèle jusqu'au bout pour chacun de nous, Seigneur. Bénis chacun de nous maintenant et garde-nous en toi au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.